Euradio présente European Soundbite, l'Europe du laboratoire à la classe.
Euradio presents Europe in a Soundbite.
Bonjour à tous, aujourd'hui dans Europe in a Soundbite, nous allons nous intéresser au pape, arbitre de l'Europe depuis l'époque moderne.
D'où vient l'idée d'un pape arbitre de l'Europe?
Au XIe siècle, la réforme grégorienne a voulu renforcer le pape comme chef de la chrétienté. Elle lui a donné sur les princes une supériorité spirituelle et universelle, lui permettant aussi d'arbitrer et de sanctionner leurs agissements. Mais dès l'époque moderne, la puissance réelle et symbolique du pape souverain et pontife, faisant plier les souverains séculiers, n'a de cesse de décliner. Cependant, s'appuyant sur son statut spirituel et temporel, il cherche à maintenir ou à retrouver une position arbitrale en Europe qui le fait renouer avec la chrétienté médiévale. À la fin du XIXe siècle, avec la chute des États pontificaux, il perd tout pouvoir temporel. Plus que jamais alors, le Saint-Siège s'érige en puissance morale, médiatrice, retrouvant paradoxalement une dimension universelle.
Cette idée s'est-elle imposée ?
Très peu, car l'idée d'un pape arbitre de l'Europe se heurte d'emblée, à l'époque moderne, à la question d'une lutte entre princes chrétiens et pontifes romains. Certes, au XIIe siècle, comme au XIIIe siècle, la papauté participe à la majorité des congrès internationaux via la présence de ses nonces, mais ses efforts demeurent le plus souvent impuissants, et sa médiation est invalidée en droit et en fait. Si ses bons offices sont acceptés, ils ne le sont que dans la mesure où ils servent conjoncturellement telle ou telle puissance.
En quoi la perte des États pontificaux à la fin du XIXe siècle a-t-elle modifié l'exercice et la perception de cette fonction revendiquée d'arbitre ?
La papauté, libérée ainsi et malgré elle des questions temporelles, se place comme une puissance morale qui s'affirme dans un dessein pacifiste et se concrétise par des offres de médiation politique. La médiation entre l'Espagne et l'Allemagne pour le contrôle des îles Carolines en 1885 est suivie de plusieurs autres dans les années 1890, en Europe, mais aussi au Venezuela ou en Éthiopie. Pour autant, le pape n'est pas invité à la conférence de paix réunie à La Haye en 1898. Quant aux appels à la trêve de Benoît XV pendant la Première Guerre mondiale, ils sont un échec.
Qu'en est-il aujourd'hui ?
Reconnu comme sujet de droit international depuis les accords de Latran de 1929, le Saint-Siège appuie ses offres d'arbitrage sur une diplomatie encore très active et sur un magistère moral qui s'exprime dans un certain nombre de discours, de voyages, de gestes marquants. Pendant la guerre froide, les papes successifs font fortement entendre cette voix, non sans efficacité, dans les rapports Est-Ouest. L'appel à la paix de Jean XXIII lors de la crise des fusées de Cuba en 1962 ne contribue-t-il pas au dénouement des tensions, de même que les efforts de Jean-Paul II à la chute des régimes communistes en Europe de l'Est? Plus récemment, le pape François a certainement joué un rôle dans la reprise des relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba. Son discours devant le Parlement européen en 2014 théorise d'ailleurs cette mutation contemporaine de la papauté qui cherche à s'ériger en figure morale bien au-delà de l'ancienne chrétienté, non seulement dans les domaines politiques et religieux, mais aussi sociaux, économiques et éthiques.
Aujourd'hui, Europe in a Soundbite sur le pape arbitre de l'Europe depuis l'époque moderne a été réalisé par Marie Levent à partir de la notice d'Alban Pialou et interprétée par Virginie Chaillot-Atrous. Retrouvez-nous sur www.ehne.fr.
C'était Europe in a Soundbite.
That was Europe in a Soundbite. You can catch the show every Monday at 10-6 on EU Radio.
À retrouver tous les lundis à 17h50 sur Euradio.